donner l'information et que bah, quelquefois des personnes ne pensent pas venir dans notre institution alors qu'on a 300 métiers, 300 possibilités de pouvoir
beaucoup,
trouver.
Bah oui, beaucoup cherchent parfois du travail.
Oui.
Et puis, s'il y a aussi une implication, on n'est pas gendarme comme ça parce qu'on veut
Non.
s'occuper. C'est aussi, j'allais dire, une vocation. C'est aussi,
Oui.
comme on entre militaire, on devait être militaire d'ailleurs, hein, c'est une vocation. Eh bien, on vous remercie, on vous félicite. On est toujours très content de vous avoir avec nous.
Nous aussi,
Merci, Major Corinne Marchand. Merci, adjudant-chef Véronique Barral, d'avoir été avec nous de
merci à
la
vous.
gendarmerie. Et à très
Merci.
très bientôt sur RCF. Vous venez quand vous voulez.
Merci à vous, Jean-Pierre Benoît.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci à vous Jean-Pierre Benoît et à vous Major Corinne Marchand pour ce nouveau numéro de Forum sur RCF Reims-Ardennes, 17h01. Dans quelques minutes, nous retrouverons le patrimoine en question avec Hubert Cartel de RCF Cœur de Champagne. Mais pour l'heure, on va aller un petit peu regarder le ciel, ce que nous réserve le ciel du mois de décembre avec Daniel Dermy et Vincent Letillois.
Bonjour et bienvenue pour les clés de l'univers. Aujourd'hui, on va parler d'un ciel avec notre ami Vincent Letillois, du ciel du mois de décembre, alors un mois un peu particulier, le mois des fêtes, le mois des cadeaux, peut-être des cadeaux un peu astronomiques, pourquoi pas. Et puis un ciel, bien sûr, dont va nous parler Vincent. Bonjour Vincent.
Bonjour Daniel. Je ne sais pas si le ciel nous fera des cadeaux. Il faut espérer.
Parce on verra.
Que,
Père Noël.
Il faut bien dire que de ce point de vue, cette année 2024 ne nous a pas fait beaucoup de cadeaux météorologiques.
Et non. Et non.
Depuis, ça remonte même à l'automne 2023. D'ailleurs, on a des statistiques d'ensoleillement. Comment dire?
C'est
compliqué parce que on sort d'années où, comme en 2022, je crois en 2019 aussi, si ma mémoire est bonne, on a eu des ensoleillements méditerranéens, c'est-à-dire que on est monté jusqu'à des 2300 heures de soleil en Champagne. C'est-à-dire, il faut savoir que Reims, par exemple, est réputé avoir quelque chose comme 1700 heures de soleil par an.
Oui.
Les années
normal,
moyennes. Voilà.
Oui.
Donc, on était très au-dessus, on avait eu des années très au-dessus. Et là, je pense qu'on est retombé franchement en dessous, parce que dans les Ardennes, on avait battu un record février de cette année 2024, où à la station de Douzy, il y avait eu seulement 11h30 de soleil pendant tout le mois. Et effectivement, là, j'ai un neveu qui m'a confirmé qu'on avait battu les records.
C'est pas étonnant.
Et donc là, on espère que voilà, ça va prendre fin, peut-être.
Espérons.
Ce cycle fait partie probablement des perturbations présentes et à venir, inclus dans le changement climatique, ce genre d'événement météo, puisque on a le court le terme qui résonne avec le long terme, malheureusement, et des météorologies, des séquences assez atypiques quand même, c'est vrai.
Il n'y a que ce qui se passe aussi au-dessus des nuages, ce dont nous parlons bien sûr souvent, que bah, les choses sont, elles, au moins, on peut le penser, en tout cas régulières.
Voilà, donc nous on essaiera de garder les pieds sur
voilà.
terre et la tête un peu vers les étoiles. Ce mois de décembre offre, il faut quand même le rappeler, 16 heures d'obscurité. Alors, ça ne fait pas le bonheur de tout le monde peut-être,
mais
pour les astronomes, si la nuit est dégagée, c'est quand même
super.
Formidable, puisque finalement, on peut, si l'on compte bien, voir presque les trois quarts du ciel de toute l'année, rien qu'en ce mois de décembre, puisque on va voir défiler plusieurs saisons au cours de la nuit, en fait. Alors, comme en novembre, le mois débute juste avec une nouvelle lune. Elle reste invisible dans le ciel diurne et nocturne, bien sûr. Le premier quartier va survenir le 8. Il va illuminer le crépuscule avant que la lune ne perde sa subtile lumière cendrée pour devenir gibbeuse et puis pleine en milieu de mois. Elle devient la gardienne de la voûte céleste avec son éclat intense. Elle monte très haut à cette époque dans le ciel au moment de son passage au méridien, avant d'afficher un dernier quartier matinal le 22 et donner une seconde nouvelle lune dans le mois le 30. Le soleil, quant à lui, se lève à 8h23 au début du mois. Il se couche à 16h56. Alors, ce sont les horaires pour Reims. Il se lève à 8h44 en fin de mois et se couche à 17h03. On a, ça y est, gagné un petit peu de jours dès la fin du mois, même si c'est imperceptible. Sans surprise, c'est bien au solstice d'hiver, donc le 21 décembre cette année, hein, que la durée du jour est la plus courte, mais le soleil continue de se lever plus tard après le solstice. Alors tiens, la durée du jour pourtant augmente, on l'a dit, et par conséquent, il est clair que le coucher de soleil se retarde encore plus, mais pourquoi est-ce qu'il y a une asymétrie? Bah, pour comprendre ça, il faut apprécier la différence entre le midi solaire et le midi à nos montres. Le midi solaire, c'est l'heure à laquelle le soleil est le plus haut dans le ciel, ce qu'on dit le plus proche du zénith, hein, son passage au méridien. Ça ne correspond pas à 12 heures pour deux raisons. D'abord parce qu'il existe des fuseaux horaires et des heures d'été et d'hiver, ça on le sait. C'est facile à comprendre, mais ça n'explique pas pourquoi le soleil continue de se lever plus tard après le solstice d'hiver. Parce qu'à une localisation donnée, le décalage entre le midi solaire et le midi de nos montres n'est pas constant tout au long de l'année, même en tenant compte du changement d'heure. Alors, il faut se pencher un peu sur les paramètres de l'orbite terrestre pour expliquer. Parce que l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23,5 degrés à peu près par rapport à la verticale, ça on le sait, ça donne les saisons. Ça a pour conséquence que l'heure du midi solaire n'est pas constante tout au long de l'année. Le midi solaire va être retardé à l'approche des solstices et avancé à mesure qu'on se rapproche des équinoxes. Et on a tous appris aussi que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Mais non, en fait, elle tourne sur elle-même en 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Alors, c'est quoi ce décalage de 4 minutes entre la durée d'un jour et la rotation de la Terre? Un jour solaire, c'est défini comme le temps qu'il faut pour que le Soleil se retrouve à la même orientation d'un point donné le lendemain. Tournant sur elle-même, la Terre a également tourné un petit peu autour du Soleil, elle a pris de l'angle. Il faut donc qu'elle tourne encore un peu plus pour retrouver la même orientation par rapport au Soleil. Bah, ça lui prend à peu près 4 minutes. Toute la subtilité réside dans le « à peu près », parce que cette durée varie entre 3 minutes 30 et 4 minutes 30, et elle est influencée cette fois par l'obliquité de l'axe de la Terre que nous avons décrite, et par la première loi de Kepler, tiens donc, qui explique que la Terre accélère en janvier parce qu'elle est un peu plus près du Soleil et ralentit en juillet parce qu'elle s'en éloigne légèrement. Elle ne tourne pas rond. Tout ça donne l'équation du temps. C'est une courbe nécessaire pour lire correctement l'heure sur un cadran solaire qui forme une sorte de 8 avec un retard ou une avance des heures théoriques de lever et de coucher de soleil. Voilà, ce monde où tout tournerait rond, eh bien, on n'aurait pas besoin de faire des avances et des retards sur un cadran solaire, mais c'est comme ça. Et ça explique notre décalage étonnant du lever du coucher de soleil de part et d'autre du solstice.
Merci Vincent pour cette superbe explication qui éclairera nos auditeurs et puis peut-être les plus jeunes aussi, puisque là on a parlé un peu mathématiques aussi.
Ah bah oui, l'astronomie, on en arrive très vite à des maths, les ellipses, l'excentricité, etc. Bon, tout peut se comprendre facilement et surtout s'observer, c'est ça qui est bien.
Parce exact.
Que, en fait, on plante un bâton, ce que les Grecs avaient déjà fort bien compris, et on voit la mécanique céleste sous nos yeux.
On parle mathématiques, mais pratique, quoi. Hein.
Alors, les planètes, un petit mot quand même. Mercure, discernable à l'aube, elle n'est pas vraiment vedette, ce sera après le 15 et elle sera toujours très basse à l'est-sud-est. Vénus est bien plus brillante que ces derniers mois. Elle est bien visible en début de nuit du sud-sud-ouest à l'ouest-sud-ouest. Mars, alors là, Mars est en vedette. Il faut absolument regarder Mars. Là, elle se lève vers 20h en milieu de mois, culmine à 4h du matin. Elle atteint 13 secondes d'angle. C'est déjà très bien. Sa magnitude est négative. Hein. Je rappelle que l'échelle des magnitudes, non seulement est logarithmique, mais quand on atteint les magnitudes de plus en plus basses et même négatives, l'astre est plus brillant. Par exemple, la Lune a une magnitude moins 12 et le Soleil moins 26. Alors ça fait des astres extrêmement brillants, mais Mars a une magnitude de moins 0,8 là, en ce moment, donc c'est très bien, ça veut dire qu'on verra bien sa couleur rouge, et dans une lunette ou un télescope de taille modeste, on peut voir une calotte polaire peut-être, et une formation dite albédo, comme Syrtis Major, qui est une grande plaine où dominent des roches sombres, basaltiques. Ça peut être également vu de par son contraste avec un instrument d'une dizaine de centimètres de diamètre. Jupiter, pratiquement aussi bien que Mars ce mois-ci, elle est en opposition dès le début du mois, le 7, elle a une magnitude encore plus négative, moins 2,8, elle concurrencerait presque la brillance de Vénus, un diamètre apparent à faire rougir tous les autres astres avec 48 secondes d'angle, donc c'est très favorable. Elle est spectaculaire dès qu'on grossit une centaine de fois, elle est accessible pratiquement dans tous les instruments, les lunettes de 6 à 10 cm, les télescopes de 10 à 15 cm, donc des instruments tout à fait accessibles qu'on peut avoir pour quelques centaines d'euros. Et si jamais vous en avez un sous le sapin, bah Jupiter sera un candidat de choix pour vos premières observations.
Pensez au Père Noël.
Voilà, tout à fait. Saturne peut-être un peu moins parce qu'elle va se montrer vraiment délicate à observer. Il faut vraiment l'attraper dès le début de la soirée. Elle est au sud à 18h. On peut encore la regarder parce qu'il fait nuit très tôt. Donc si vous voulez essayer de voir son anneau très très fin maintenant, vous pouvez essayer de la capturer en début de soirée. Alors il faut savoir que Saturne, on ne verrait théoriquement plus son anneau au mois de mars, mais on n'a pas de chance puisque Saturne va passer en conjonction avec le Soleil au mois de mars. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que pour voir disparaître l'anneau de Saturne, il va falloir attendre 15 ans.
Ah oui,
demi-orbite saturnienne. Parce que c'est Saturne, c'est un monde déjà très lent où année fait entre 29 et 30 ans. Donc, il ne faut pas être trop pressé quand on va voir Saturne. Qu'en décembre, on peut donc voir, et bien sûr, le croissant lunaire, en profiter pour le retrouver en compagnie de Vénus le 4 et le 5 décembre. Si vous voulez voir la lumière zodiacale et que vous êtes exceptionnellement très loin des lumières des villes, c'est le bon moment aussi. Vous savez, la lumière zodiacale, c'est ces poussières résiduelles de la formation du système solaire. Et elle se trouve donc au niveau de l'écliptique. Et elle diffuse encore un petit peu de cette lumière qui nous rappelle les temps primitifs de la formation des planètes. Le 7 et le 8 décembre, c'est un week-end, Saturne est donc approché par le premier quartier de la Lune dans le Verseau. Si vous voulez trouver facilement Saturne, c'est peut-être le moment de le faire donc vers l'horizon sud. Et puis, en milieu de mois, ce sont les Léonides. Alors bon, les Léonides, c'est un beau spectacle d'étoiles filantes qui semblent provenir, comme leur nom l'indique, de la constellation du Lion, et qu'on a les Géminides aussi, et le problème c'est la Lune en fait, c'est que en fait on a la Lune qui va nous gêner parce qu'elle est pleine et à chaque fois elle va nous cacher les étoiles filantes. Alors quelques-unes brillantes peuvent peut-être survenir, mais honnêtement ce sera difficile cette année de les voir. Le 18 décembre on a Mars qui va être occulté par la Lune, alors ça c'est pas visible parce que ce sera au matin pour la plupart des gens, c'est à 7 degrés de hauteur, mais on pourra voir Mars très près de la Lune dans le même champ qu'une paire de jumelles, et Mars en plus étant en son opposition, on peut comparer les diamètres apparents de Mars et de la Lune. Si vous avez un instrument qui grossit au moins une centaine de fois, c'est spectaculaire, comme à chaque fois que la Lune se rapproche d'une planète. On peut voir une perspective sur le système solaire et voir ce que sont les distances dans le système solaire. Je rappelle que si on va en 4 jours de fusée sur la Lune, il faudra plusieurs mois de voyage à minima pour aller sur Mars dans les conditions les plus favorables. On se rappelle que les missions qui vont par exemple vers Jupiter, là ça se compte en années, c'est plus en mois. On vient d'expédier encore la mission Europa Clipper qui est partie là il n'y a pas longtemps. C'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est les années 2030. C'est ça.
Avec en plus des réactions de gravitation avec les.
Et en plus, il faut accélérer la sonde pour qu'elle arrive un peu plus vite, c'est ça. Donc on termine le mois par le solstice d'hiver, bien sûr. Donc on en a parlé tout à l'heure. Bien sûr, les nuits les plus longues pour à peu près 16 heures de nuit et 8 heures de jour.
Et puis, après, on va vous dire à tous nos auditeurs, passez un très bon Noël puisque le 25 décembre sera quelques jours plus tard. Voilà. En attendant, notre émission est terminée et nous disons à très bientôt pour de nouvelles clés de l'univers. Au revoir.
Merci à tous les deux pour ces quelques petits conseils et justement en espérant qu'il n'y ait pas trop de nuages pour qu'on puisse voir un petit peu tout ça. On continue notre programme, il est 17h13, c'est l'heure de retrouver Hubert Cartel de RCF Cœur de Champagne pour le patrimoine en question sur l'exonération de biens fonciers loués par bail à long terme. On en fait le point.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question. Bonjour Marie-Laure Aucourt.
Bonjour Hubert.
Marie-Laure, une question qui est importante pour notre région, c'est celle des droits de succession sur les vignes, même s'il y a aussi la question des droits de succession sur les terres. Parce que l'outil de travail des agriculteurs, comme celui des viticulteurs, coûte très très cher et dans notre région de plus en plus cher. Donc, la question qui se pose, et c'est souvent évoqué dans les débats politiques, c'est en fait, qu'est-ce qui est fait par les pouvoirs publics pour aider à la transmission de cet outil de travail qui est très cher, qui est la terre ou les vignes. Et donc là, la situation politique est un peu compliquée. Mmh. Il y a une loi de finances qui est en discussion. Je crois qu'elle est au Sénat actuellement.
Mmh, tout à fait.
Et se pose la question, effectivement, des différents régimes qui s'appliquent quand il y a des baux à long terme. Parce que je crois savoir que il faut, quoi qu'il arrive, pour avoir des avantages fiscaux, qu'il y ait un bail à long terme en cours au moment où intervient la donation ou le décès.
Tout à fait.
Alors, est-ce qu'on peut faire un point sur tout ça pour éclairer un de nos auditeurs qui nous a posé cette question au sujet des droits de succession sur les vignes? J'ai entendu dire qu'il y avait des modifications. Est-ce qu'il serait possible de faire le point?
Alors, on va effectivement faire le point. Comme vous l'avez suggéré, Hubert, ça concerne à la fois les droits de succession, donc quand on a un décès, mais également les droits de donation, donc quand les personnes de leur vivant veulent faire des donations au profit de leurs enfants ou de toute autre personne d'ailleurs, puisque ce dont on va parler, les exonérations attachées à l'existence d'un bail à long terme, ne sont pas incluses dans une obligation de transmission à un membre de la famille. Ça marche pour les enfants, les neveux et même un tiers.
Ou un testament,
avec un
testament portant sur des terres ou des vignes. Dès lors qu'il y a un bail à long terme, le bénéficiaire du testament
tout à fait
a des droits calculés avec des avantages.
Tout à fait. Donc, droit de donation, droit de succession, quelle que soit la qualité de l'héritier ou du donataire. Et donc, ça fonctionne à la fois sur les parcelles viticoles, sur les parcelles agricoles de notre région et également sur tout ce qui est bâtiment d'exploitation qui serait loué par bail à long terme. Et ça fonctionne également de la même façon sur ces biens agricoles loués par bail à long terme qui sont inclus dans un GFA, groupement foncier agricole, donc à travers une structure sociétaire typique ou spécifique au monde agricole et viticole qu'on appelle GFA ou GFV de temps en temps.
Mais il faut que ce soit un GFA qui ne possède que des biens susceptibles d'être loués par bail à long terme.
Et que tous les biens qui sont dans le bilan de ce GFA ou de ce GFV soient effectivement loués par bail à long terme au jour de la donation ou de la succession. Il faut surtout pas qu'il y ait un petit bout de parcelle qui a été omis d'être inclus dans le bail à long terme.
Il faut qu'il y ait, ce soit identique.
Oui.
Le patrimoine du GFA ou du groupement viticole doit être identique à ce qui est loué par bail à long terme.
Tout à fait.
D'accord.
Alors, quel est le régime actuel avant peut-être d'aller effleurer les projets qui sont en cours de loi de finances pour 2025, en sachant qu'à l'heure à laquelle on vous parle, on n'a pas de certitude puisque la loi de finances pour 2025 n'est pas votée, qu'elle est en cours de discussion au Sénat, et il y aura certainement un retour à l'Assemblée nationale et donc on saura éventuellement les dispositions qui seront effectivement retenues et votées, soit tous les derniers jours du mois de décembre 2024, soit tout début janvier 2025. Et là, cette année, on va encore prendre plus de précautions, puisque comme il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est très difficile de savoir ce qui va passer ou non.
Enfin, on sait surtout que tout le monde exprime des désaccords avec le projet proposé par le gouvernement.
Tout à fait.
Et on n'entend pas un seul bruit d'accord.
Non, on entend plein d'amendements, plein de choses différentes. Donc, on verra bien ce qui va sortir en fin d'année.
Mais pour en terminer avec ça, quand même, à la fin, on aura une loi de finances pour 2025.
Normalement, oui.
Et si on en a une en 2025 et si personne n'est d'accord, ça sera le projet du gouvernement.
Oui, avec un 49.3
que tout le monde maintenant connaît, en tout cas tout le monde a entendu parler.
Tout à fait. Alors aujourd'hui, quel est le régime d'exonération en matière de droit de donation et droit de succession quand dans la donation ou dans la succession, on a des vignes, des terres ou des bâtiments d'exploitation? Le régime, il s'est un petit peu complexifié depuis la loi de finances pour 2023, puisqu'aujourd'hui, on a deux seuils d'exonération. Soit ceux qui vont recevoir les vignes, les terres, les bâtiments, à l'issue d'une donation ou d'une succession, s'engagent à les conserver pendant une durée de 5 ans à compter de l'acte de donation ou de la date du décès, auquel cas l'abattement est de 3/4 jusqu'à 300 000 euros. Cet abattement de 3/4 jusqu'à 300 000 euros, je l'ai autant de fois que j'ai de donateurs. Par exemple, si j'ai monsieur et madame qui donnent, bah, j'ai déjà deux fois 75% d'abattement jusqu'à 300 000 euros de valeur
donnée. Donc 75% sur 600 000.
Tout à fait.
Si ils ont des biens des deux côtés.
Exactement. Ouais. Et puis, je l'ai après autant de fois que j'ai d'héritier ou de donataire. Donc, si je prends mon couple qui a trois enfants, bah, je vais multiplier ensuite.
Ça fait 1,8 million.
1,8 million.
Ouais, mais 1,8 million, ça fait même pas 2 hectares de vigne.
Oui, mais c'est déjà, enfin voilà, c'est la règle aujourd'hui.
Non, mais je crois que c'est important de le dire parce qu'on s'aperçoit que l'avantage là, tel qu'il est exposé par vous, Marie-Laure, c'est 3/4 de 300 000 euros par enfant pour chaque parent.
Oui.
Et que en utilisation maximum, ça fait exonération des 3/4 sur 1 hectare, enfin sur 1,8 million,
ouais,
sur 1,8 million, c'est-à-dire en gros 2 hectares de vigne à peine, quoi.
Et ensuite,
et c'est pas une exploitation viable.
Non. Et ensuite, au-delà des 300 000 euros par part, on a un abattement qui est de 50%. Et là, pour le coup, les 50%
là,
ne sont
pas
plafonnés. Non, tout à fait.
Il n'y a pas de limite. C'est 50% sur tout le reste.
Tout le reste. Et donc, ça, c'était le régime qu'on connaissait avant 1er janvier 2023. Donc, obligation de conserver pendant 5 ans et donc 75% d'abattement jusqu'à 300 000. Depuis le 1er janvier 2023, si les donataires ou les héritiers en font le choix, ils peuvent s'engager à conserver pendant 10 ans les terres,
au lieu de 5 ans.
Voilà, au lieu de 5, les terres, les vignes ou les bâtiments. Et à ce moment-là, leur exonération, c'est 75% jusqu'à 500 000. Et avec les mêmes règles, c'est-à-dire que l'abattement de 500 000, je l'ai autant de fois que j'ai de donateurs et de donataires, je multiplie. Donc voilà, ça a augmenté au 1er janvier 2023.
Donc on a gagné effectivement 200 000 euros par opération, c'est-à-dire 400 000 euros pour les deux parents pour un enfant, avec une exonération des 3/4 sur ces 400 000 euros. Au lieu des 300, c'est 500. Mm. De 300 à 500, ça fait 200. Et deux fois, ça fait 400.
Tout à fait.
Donc, tout ça, c'est les opérations. Alors, c'est le système actuel,
oui.
Ça.
Oui.
Pour les transmissions qui ont lieu en 2024.
Oui, jusqu'à ce que la loi change. Si elle change au 1er janvier 2025, on verra. Alors, en tout cas, dans ce qu'on a pu lire et entendre, on a pu voir que quand il y avait une transmission qui était faite au profit d'un jeune agriculteur qui s'installe avec les aides, le seuil pouvait être porté de 500 000 jusqu'à 600 pour avoir l'abattement des 75%, toujours avec un engagement de conservation de 10 ans. Et puis, plus récemment, on a pu lire également sous forme d'un amendement qui a été déposé au projet de loi de finances déposé par le gouvernement, un abattement de 3/4 sans limite, comme le pacte Dutreil sur les transmissions d'entreprises, avec un engagement de conservation des parcelles transmises pour une durée de 15 ans. Ça a notamment fait suite à une affaire en Bourgogne de vente de foncier pour des problèmes de droit de succession.
Oui, et que la Champagne a reprise avant que l'Assemblée nationale ne soit dissoute par les parlementaires locaux qui avaient poussé cette modification de la loi, hein, visant effectivement à avoir une exonération des 3/4 sur la totalité de ce qui est transmis et avec cette condition. Alors qu'on comprend bien. 5 ans, 10 ans, 15 ans, obligation pour les héritiers de conserver, et si jamais ils vendent pendant le délai d'engagement, il y a une remise en cause des avantages fiscaux.
Tout à fait, avec intérêt de retard.
Donc l'engagement, il est très très lourd, hein, oui. Quelque part, mais on en comprend bien la philosophie. C'est-à-dire que c'est un outil de travail, il est fait pour être conservé, et à partir de là, on peut comprendre que l'avantage, c'est donnant-donnant. On a l'avantage à condition que ceux qui héritent du bien le conservent longtemps. Une question, le bail, parce que moi qui suis un ancien, en 1973 tout ça a commencé, et à l'époque, les auditeurs s'en rappellent peut-être pas, mais l'exonération des 3/4 était sans limite, sans aucune limite, il suffisait qu'il y ait un bail à long terme. Et un jour, ça a été étendu aux parts de GFA. Et puis progressivement, au fil du temps, cet avantage a été grignoté. Hein, il a été grignoté. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des voix qui s'élèvent pour quand on est dans la situation de la Bourgogne ou de la Champagne, où ça vaut quand même une fortune.
Très cher.
Très très cher, quoi. Ça vaut beaucoup plus que ne vaut un outil de travail. Et pour ne pas pénaliser, il y a effectivement régulièrement des revendications qui reviennent pour qu'on revienne aux temps anciens, quelque part. Donc voilà la situation. Alors, les premiers baux qui ont bénéficié de ces avantages sont des baux qui ont été signés par une loi qui les a créés en 73. Donc, 73 plus 18, ils sont arrivés au bout.
Ouais.
Donc, se posent deux questions. La première, est-ce que il faut que ce soit toujours un bail écrit au moment où a lieu la transmission?
Alors, il faut qu'à la base, on ait eu un bail à long terme, peu importe que la transmission se fasse pendant la durée initiale ou pendant les périodes de renouvellement du bail à long terme.
Là, écrit ou ça peut être un renouvellement verbal?
Ah oui, oui. À la base, une fois que le bail était écrit, même s'il s'est renouvelé verbalement, on est toujours couvert et on bénéficie toujours des abattements pour à long terme.
C'est-à-dire qu'un bail de 18 ans au cours duquel il s'est rien passé,
oui,
où on n'a rien fait à la fin du bail, c'était un bail écrit, bien sûr, le premier, il repart par un bail verbal de 9 ans.
Tout à fait.
Sauf s'il est dit dans le premier bail qu'il se renouvelle par période de 18 ans, mais c'est très rare.
C'est très rare. En général, c'est de 9 ans en 9 ans, le renouvellement.
Et si la transmission a lieu la 22e année, alors qu'on a oublié de refaire un écrit?
On bénéficie des abattements beaux à long terme.
Et celui qui hérite une première fois sous le couvert d'un bail à long terme avec l'avantage fiscal, est-ce que le même bien peut à nouveau bénéficier de l'avantage fiscal?
Oui, Hubert, il n'y a pas de limite à partir du moment où on est toujours sous l'empire d'un bail à long terme.
Et c'est vrai qu'avec une disposition qui date de 1973, on en est à des deuxièmes transmissions, là,
oui,
aujourd'hui.
Oui, et puis même des baux qui ont été faits plus récemment, ça peut...
Donc, on va être attentif à ce que cette loi de finances va nous sortir à la fin.
Tout à fait.
Mais en tout état de cause, si c'est un 49.3, il n'y aura rien qui va changer.
Pas grand-chose, à moins qu'il y ait des amendements surprises et qui passent. Après, rendez-vous début 2025, on refera un point.
On fera un point là-dessus. Merci beaucoup, Marie-Laure.
Au revoir.
Au revoir, à très bientôt sur RCF.
Merci à vous, Hubert Cartel, pour ce nouveau patrimoine en question. Dans quelques instants, on va parler de l'école et du collège Jeanne d'Arc de Reims dans Réenchanter l'école. Ce sera 17h30 avec Caroline Lequen et ses invités. Mais pour l'heure, en direct de l'histoire avec vous, Michel Royer, on va parler d'un saint bien connu, je crois.
J'évoque cette semaine l'une des plus grandes figures du catholicisme, saint François d'Assise. François naît vers 1181 à Assise, petite ville du centre de l'Italie. C'est le fils d'un riche marchand, et jusqu'à l'âge de 25 ans, il mène en apparence une vie facile en rêvant d'exploits guerriers. Mais au fond de lui-même, il se pose de nombreuses questions qui l'amènent en 1206 à rompre totalement avec sa vie passée pour mener la vie des plus pauvres. Peu à peu, il est rejoint par d'autres. Et ensemble, ils expérimentent une nouvelle façon de prêcher et de témoigner leur foi, en ne possédant aucun bien et en s'en remettant à la charité. Sous l'appellation de frères mineurs, ils se différencient des ordres monastiques de l'époque, qui certes avaient renoncé à la propriété individuelle des richesses, mais pas à leur propriété collective, et qui pratiquaient bien la charité envers les pauvres, mais sans se mêler à eux. D'ailleurs, au départ, les frères mineurs ne constituent pas un ordre religieux, mais une simple confrérie que quelques femmes, avec à leur tête la future Sainte Claire, rejoignent. Dans ce groupe qui entend vivre totalement la pauvreté évangélique, l'argent et la propriété sont bannis. Et les frères se considèrent comme égaux entre eux, ce qui implique l'absence de toute organisation hiérarchique. En donnant un témoignage de vie chrétienne, davantage par leurs actes que par leurs sermons, les frères mineurs vont connaître un succès croissant. Or, dans le contexte de l'époque, où le clergé est souvent défaillant et où se renforcent les courants hérétiques, la confrérie franciscaine est un atout pour les autorités religieuses de Rome, qui comprennent très vite l'intérêt qu'elle a. Mais pour que cette confrérie puisse répondre aux besoins de l'Église, il est nécessaire qu'elle se transforme en un véritable ordre religieux, qui puisse s'insérer dans l'organisation ecclésiastique et avoir des responsabilités pastorales. Cela implique notamment de fixer une règle, d'assurer une formation intellectuelle sérieuse et de mettre en place une organisation hiérarchique. À l'évidence, il s'agit là d'une rupture profonde avec les conceptions de François d'Assise, qui cependant, ne voulant pas entrer en rébellion contre Rome, accepte en 1223 la transformation de la confrérie en un ordre religieux. Mais cette transformation ne va pas sans souffrance pour François, qui se retire alors pour mener une vie d'ermite. C'est dans cette période que se situe la mystérieuse et controversée apparition des stigmates, qui a probablement renforcé sa conviction qu'il devait s'abandonner entre les mains de Dieu. François meurt en octobre 1226 tout près d'Assise. À ce moment, on compte environ 5000 frères mineurs en Italie. Si François est très vite canonisé, 2 ans seulement après sa mort, ce qui est rarissime, l'ordre franciscain connaît de vives tensions entre ceux qui veulent conserver le vœu de pauvreté absolue des débuts et ceux qui veulent l'alléger. C'est finalement le futur Saint Bonaventure qui, en tant que ministre général de l'ordre, de 1257 à 1274, le normalise en donnant moins d'importance à la pauvreté et davantage aux préoccupations intellectuelles et pastorales.
En direct de l'histoire avec Michel Royer, 17h30, tout de suite, même 31, tout de suite, c'est Réenchanter l'école avec Caroline Lequen, direction l'école et le collège Jeanne d'Arc de Reims.
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui?
Réenchanter l'école avec nous aujourd'hui, Rémi Ruyer, chef d'établissement de l'école Jeanne d'Arc à Reims. Bonjour, monsieur Ruyer.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous vous retrouvons dans ce cycle Réenchanter l'école. De quoi allez-vous nous parler?
Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre établissement, donc le groupe de la salle qui accueille les élèves de la maternelle au lycée. Et pour vous parler des portes ouvertes qui arrivent à la fin du mois.
Où est situé le groupe Jeanne d'Arc sur Reims?
Alors le groupe Jeanne d'Arc est décomposé en 2 unités, donc avec l'école maternelle au 47 rue Marie-Clémence Fouriot, donc, qui accueille les élèves de la petite section à la grande section, et ensuite le site avenue de Lens, donc au 94, avec la partie école primaire du CP au CM2, puis toute la partie collège, ainsi qu'un lycée professionnel qui accueille des élèves de la 3e prépa métier jusqu'au bac.
Ouais, donc ça fait quand même un gros groupe.
Oui, donc on a 1000 élèves sur le site Jeanne d'Arc. D'accord. Et ensuite donc on a le site Saint-Jean-Baptiste, situé rue de Contret, avec toutes les parties lycée général et technologique.
Pour les parents qui nous écoutent, pourquoi ils devraient choisir Jeanne d'Arc?
Alors, l'école Jeanne d'Arc, tout d'abord, c'est une école familiale, donc qui accueille essentiellement des élèves du quartier, donc avec une forte proximité entre les familles et les enseignants. Donc c'est une école où les enfants sont heureux de venir et où les parents sont proches de l'équipe enseignante. Après, l'équipe Jeanne d'Arc, c'est une école qui propose beaucoup d'activités différentes. Donc déjà, on est très centré sur le sport. Donc depuis cette année, on propose une classe étude tennis avec le club URT. Donc nos élèves du CP au CM2 peuvent participer à cette classe-là 3 fois par semaine, donc avec un aménagement du temps scolaire pour pouvoir suivre le programme scolaire tout en pratiquant la discipline du tennis et sachant que cette proposition se poursuit sur le collège. Au niveau du sport au primaire, donc on a aussi beaucoup d'intervenants sportifs de la maternelle au CM2, donc pour découvrir différents types de sports comme l'escalade, le full contact, le handball ou le tennis. Donc beaucoup de sports qui sont aussi proposés sur le temps du midi sur les activités méridiennes. Donc activité méridienne qu'on essaye de développer au maximum pour justement faire que le temps du midi soit le plus agréable possible pour les enfants. Donc avec des activités sportives comme l'athlétisme avec les SFRA, on propose du théâtre, de la couture, de l'anglais, de la chorale, donc pour essayer de correspondre au maximum à tous les profils d'élèves.
Ça fait quand même pas mal d'activités, c'est plutôt sympa pour les élèves.
Oui. Alors sachant que le temps du midi, c'est un temps qui est souvent long pour les enfants, donc l'intérêt c'est vraiment de proposer des choses très différentes pour que ce temps-là soit vraiment un plaisir et puisse permettre aux enfants de se reposer sur le temps du midi. Sachant que pour le temps du midi, donc on a aussi la chance d'avoir un self sur place avec un chef qui cuisine tous les jours, donc qui permet aussi aux élèves d'avoir une vraie pause déjeuner avec des repas équilibrés et confectionnés par notre chef de façon quotidienne.
Le groupe Jeanne d'Arc fait partie des Lassaliens. C'est plutôt un gros groupe français. Est-ce que vous faites des activités avec les autres écoles lassalliennes ?
Alors, la tutelle lassallienne est très implantée sur Reims, puisque donc on porte l'héritage de Saint-Jean-Baptiste de La Salle, qui a été un frère rémois. Donc, tout a commencé à Reims. Et la tutelle est mondiale. Donc, on est vraiment répartis partout en France. Et on travaille de façon régulière donc avec nos collègues lassalliens de Reims pour mener des projets ensemble et aussi permettre à nos établissements d'évoluer et de proposer des nouvelles choses aux enfants. Voilà. Et sachant donc au niveau de la tutelle lassallienne, pour le site Saint-Jean-Baptiste de La Salle, ça se décompose en deux axes principaux. Donc Saint-Jean-Baptiste avait à cœur d'accueillir tous les élèves. Donc l'école Jeanne d'Arc, c'est vraiment une école qui accueille tous les élèves sans discrimination, que ce soit religieuse, sociale ou scolaire. Mmh. Et une attention aussi pour tous les élèves à besoins particuliers, donc avec une pédagogie adaptée pour permettre à chaque élève de pouvoir progresser en fonction de ses capacités.
Aujourd'hui, sur la partie Jeanne d'Arc, vous avez combien de classes à peu près ?
Alors au niveau de l'école primaire, j'ai 13 classes, donc 4 classes sur le site maternel et 9 classes sur le site Jeanne d'Arc. Donc ça représente 330 élèves cette année.
Pas mal d'élèves quand même.
Oui, c'est une belle école.
Quelles sont vos dates de portes ouvertes ?
Alors, on ouvre nos portes ouvertes pour la première fois sur 2 jours cette année. Donc, avec le premier jour, le vendredi 29 novembre au soir. Donc, on ouvre de 17h à 19h. On fait cette proposition puisque, à ces horaires-là, il y a encore des enfants dans l'école jusqu'à 18h. Donc, ça permet aux parents de voir l'école quand il y a encore de la vie et quand les élèves sont présents. Et on ouvre aussi le samedi matin de 9h à 13h. Donc, sachant que sur ces journées-là, tout le site Jeanne d'Arc est ouvert, donc école, collège, lycée, et le site Saint-Jean-Baptiste est également ouvert pour toutes les parties lycéennes.
Donc ça, c'est les dates pour le mois de novembre.
Oui.
Est-ce que vous avez une seconde porte ouverte pour les parents qui ne peuvent pas venir
Oui. Donc on a une seconde édition de porte ouverte fin janvier, donc à nouveau avec la formule vendredi et samedi. Donc la première session le 31 janvier au soir, donc de 17h à 19h également. Et le lendemain, le 1er février, de 9h à 13h, à nouveau pour tout le site groupe de La Salle, donc de la petite section au post-bac.
Là, on va rentrer un petit peu dans la période de Noël.
Oui.
Est-ce que vous faites des activités à Jeanne d'Arc en lien avec Noël ?
Alors, il y a tout un projet qui est lié à la pastorale. Donc, au niveau de la pastorale dans l'école, on suit principalement l'année liturgique. Donc, le temps de l'Avent, c'est un temps qui est très important forcément dans notre religion. Donc, on prévoit un parcours vraiment adapté pour préparer l'Avent. Donc, avec un parcours pour la maternelle et ensuite un parcours pour les élèves du CP au CM2. Donc, tout au long de la période de l'Avent, les élèves vont vivre des étapes qui vont nous faire avancer progressivement vers Noël. Et on a aussi une action caritative qui va être proposée pour justement donner du sens et permettre aux enfants de s'ouvrir un petit peu aux autres pendant cette période-là. Donc, on fait traditionnellement des collectes de jouets qui ensuite sont distribués à des associations pour permettre aux enfants dans le besoin d'avoir des jouets pour Noël. Donc c'est toujours quelque chose qui parle beaucoup aux enfants et qui fonctionne plutôt bien. Et la période de l'Avent se termine par la célébration de l'Avent, qui a lieu le vendredi des vacances dans l'église Saint-Thomas.
Qui peut venir à l'école Jeanne d'Arc ? Est-ce que c'est uniquement des enfants baptisés ou est-ce que vous acceptez tout le monde ?
Alors, l'école Jeanne d'Arc, c'est une école certes qui est privée catholique, donc la dimension pastorale existe dans l'école et c'est important pour nous. Néanmoins, on accueille tous les enfants, peu importe leur choix de religion. Donc, tous les élèves sont accueillis sans aucune discrimination. Après, il faut quand même bien avoir en tête que la pastorale existe dans l'établissement et pour tous les enfants. Mmh. Donc, il y a deux propositions qui sont faites. Donc, soit les enfants qui viennent à Jeanne d'Arc pour le côté pastoral et on leur propose vraiment des temps de catéchèse. Et ensuite, on a les familles qui ne viennent pas forcément de prime abord pour le côté pastoral, mais pour qui les enfants suivront ce qu'on appelle des cours de culture religieuse. Donc c'est des séances qui permettent de travailler la religion plus sur une dimension culture générale et de permettre aux enfants de s'ouvrir sur ce qui se passe un petit peu donc dans la religion chrétienne, mais aussi les autres religions. Donc nous, c'est un temps qui fonctionne très bien puisqu'on a des élèves qui viennent un peu justement de toute origine différente. Et les temps de culture religieuse, ça permet justement de se découvrir et savoir comment certaines religions se passent dans d'autres pays. Donc c'est des temps qui sont assez importants, mais qui permettent justement à tous nos élèves de vivre ensemble sans se juger ou sans avoir de critiques à faire les uns ou les autres.
C'est plutôt pas mal.
Oui.
Ça réduit aussi le harcèlement.
Alors, le sujet du harcèlement, donc c'est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment. Hein. Alors, la religion, ça peut être effectivement un axe pour apprendre à vivre ensemble et éviter les tensions. Après, donc on sait que c'est un sujet qui peut concerner tout le monde et qui peut arriver très rapidement. Donc, comme toutes les écoles, je pense qu'on est très attentif à tout ça. Et on travaille beaucoup avec les élèves et les équipes pour justement essayer d'être le plus rapidement au courant des situations qui pourraient se développer pour agir, pour éviter que justement des élèves se retrouvent en souffrance ou qu'il y ait des situations qui soient trop compliquées à régler par la suite.
Est-ce que sur le groupe scolaire, donc je parle autant de Jeanne d'Arc que de Saint-Jean-Baptiste, est-ce que vous avez des dates clés dans l'année où les parents peuvent aussi participer ou des dates qui sont hyper importantes pour les élèves?
Alors, au niveau de l'école, les parents sont invités à participer de façon très diverse. Donc, la première participation principale, c'est l'appel, donc l'association de parents d'élèves, qui, chaque année, lors de l'Assemblée Générale, justement, invite tous les parents qui souhaitent s'investir dans l'établissement. Donc là, c'est la possibilité de s'investir de façon plutôt agréable et ludique, puisque c'est pour mettre en place des manifestations dans l'école et faire vivre justement des temps forts aux enfants. Mmh. Ensuite, on a le conseil d'établissement. Donc le conseil d'établissement, il est composé des parents correspondants. Donc les parents correspondants représentent chaque classe. Et c'est l'occasion pour eux de participer à une instance de l'établissement où on prend des décisions sur le fonctionnement. Donc ça leur permet vraiment d'être acteurs de l'établissement et de participer avec nous à l'évolution de l'établissement. Et ensuite, il y a toutes les possibilités de participation de façon un peu plus ponctuelle. Donc, on a une bibliothèque dans l'école qui est tenue par les parents. Donc, ça permet aux parents régulièrement de venir tenir la permanence de bibliothèque et de passer du temps avec leurs enfants. On a aussi donc le temps de pastoral. Donc, comme on a une proposition catéchèse et une proposition culture religieuse, on a besoin de parents pour nous aider à faire les deux séances en simultané. Donc, ça, c'est toutes les participations, on va dire, qui sont assez actives. Après, les temps forts dans l'année... Tout dépend des projets qu'on a prévus par rapport justement aux classes. Après, donc les temps principaux qui sont traditionnels, donc on a le marché de Noël qui intervient toujours au moment de Noël, forcément. On a ensuite toute la période du carême, donc avec aussi des actions qui sont assez fortes, et le carnaval à la mi-carême pour l'école. Ensuite, toutes les sessions de portes ouvertes. Et ensuite, donc, on termine l'année par la kermesse, donc, qui est toujours un temps fort et là qui, pour le coup, concerne tout le monde et sur lequel on arrive à fédérer vraiment toutes les familles.
Est-ce que vous avez une dernière petite chose à rajouter concernant votre établissement ?
Ouais, j'invite vraiment donc, tous les parents à venir à notre rencontre. Alors, l'école Jeanne d'Arc, c'est une école qui n'est pas très connue, puisque dans l'idéal des gens, en fait, Jeanne d'Arc, c'est un collège. Donc, on vous invite vraiment à venir dans le fond de la cour pour découvrir notre école et notre équipe qui sera ravie de passer un petit peu de temps avec vous. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup à Rémi Ruyer, chef d'établissement de l'école Jeanne d'Arc de Reims. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Réenchanter l'école. Bonne journée.
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui?
Merci à vous Caroline Lequen pour ce nouveau numéro de Réenchanter l'école. Encore une musique, une chanson, ce sera dans quelques minutes avec Bernard Poplino pour Coûter Mubin. Mais pour l'heure, on va parler de l'association Reims-Parkinson dans le cadre des comités de jumelage, fréquence jumelage avec Monique Strom et Viviane Rebou.
Fréquence Jumelage, le magazine des comités de jumelage de la ville de Reims.
Bonjour Viviane.
Bonjour Monique et bonjour à nos invités, bonjour à nos auditeurs.
Eh oui, j'allais oublier. Non, j'ai pas oublié nos auditeurs quand même. Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui on reçoit deux messieurs qui ont une activité très particulière, d'habitude dans les comités, soit surtout sur le plan culturel.
D'être là, aussi sérieux,
c'est voilà, vrai. Voilà, c'est tout est sérieux, Viviane, même les culturels. Non, là, on reçoit Monsieur Lessieux, qui est président de Reims-Parkinson, et le secrétaire, Monsieur Bernasconi. Donc, ces deux personnes de Reims-Parkinson ont aussi un comité de jumelage avec Canterbury. Je vais d'abord donner la parole à Monsieur Lessieux, qui va nous expliquer exactement ce que c'est que la maladie de Parkinson. Ensuite, je laisserai Monsieur Bernasconi nous expliquer comment est arrivé ce jumelage des Parkinsoniens de Reims avec les Parkinsoniens de Canterbury. Et je précise qu'au sein du comité de jumelage Reims-Canterbury, la personne qui s'occupe de cette partie, c'est Sylvie Colgrave, qui est près de nous aujourd'hui. Mais Sylvie, elle va écouter bien sagement. Voilà.
Elle corrigera si jamais on dit des bêtises.
Je la remercie d'être présente. Et je la remercie d'être présente et de nous permettre de recevoir ces deux messieurs. Monsieur Lessieux, je vous laisse la parole.
Bon, parfait. Je vais vous donner quelques grandes lignes sur la maladie de Parkinson. Il s'agit d'une maladie dégénérative à long terme du système nerveux central, affectant le système moteur. Les signes précoces les plus évidents sont le tremblement au repos, la rigidité, la lenteur des mouvements et la difficulté à marcher. La maladie de Parkinson, qui est à l'œuvre avec son lot de contrariétés, empoisonne notre quotidien, créant un horizon incertain. Nous devons faire face en toute lucidité malgré le désarroi. Il y a de multiples raisons d'espérer. Espérer que la recherche sur Parkinson continue d'avancer. Cette recherche qui, en comprenant de mieux en mieux les mécanismes à l'œuvre dans nos cellules, nous permet déjà de mieux vivre avec la maladie et nous ouvre les portes pour demain, les portes pour la vaincre. Je sais que cela peut sembler d'une naïveté candide, mais je préfère la petite flamme de l'espérance à la dépression, l'optimisme de la volonté au pessimisme de la raison.
Merci beaucoup, c'est très bien ce que vous venez de dire. Si on a quelques minutes qui nous restent tout à l'heure, peut-être on pourra aborder certains points qui ont évolué.
Les avancées.
Voilà,
les...
mais ça je ne peux pas vous le garantir. Monsieur Bernasconi, je vous laisse la parole parce que là vous allez nous expliquer exactement la démarche.
L'historique.
Oui, comment est née l'association Reims-Parkinson? En 2003, l'association Parkinson de Canterbury prend contact avec le comité de jumelage Reims-Canterbury pour trouver une association homologue sur Reims. Le comité de jumelage transfère le courrier reçu à Daniel Minck, qui est parkinsonien et rémois. Il s'ensuit une prise de contact avec Béatrice Scheer, présidente à Canterbury, via l'intermédiaire de Nadine Portail. Dès le premier contact, il est convenu d'accueillir un petit groupe d'Anglais grâce à l'aide de Claire Montaudon, parkinsonienne, qui propose les locaux de la maison de champagne Montaudon, rue de Verdun à Reims, comme base d'accueil.
Si j'ai bien compris, monsieur, ça veut dire que c'est une initiative, il n'y avait pas de Reims Parkinson?
Non.
C'est une initiative britannique, donc c'est une fleur du jumelage, disons.
Si vous voulez, c'est parce que Reims était jumelé avec Canterbury.
D'accord.
Que les parkinsoniens de Canterbury ont eu l'idée de chercher des parkinsoniens à Reims.
Ça a permis de fédérer, et c'est
ça
formidable.
Ça a entraîné le désir de M. Daniel Minck de créer l'association Reims-Parkinson. Reims-Parkinson a fait l'objet d'une déclaration en sous-préfecture le 18 décembre 2003 par Daniel Minck. Et la création a été publiée au journal officiel du 17 janvier 2004. Oui, c'est pour cela que l'an dernier, nous avons fêté les 20 ans de l'association Reims-Parkinson. De 2003 à 2013 compris, les échanges sont annuels. Les années impaires à Reims, les années paires à Canterbury. En 2013, la dégradation de l'état de santé du président Daniel Minck et le décès de son épouse Pascaline entraîne l'élection d'un nouveau bureau. Jocelyne Claus accepte la présidence pour 3 ans. Les échanges se font plus rares, si bien qu'il n'y a aucun échange en 2014. En 2015, nous nous réunissons à Canterbury. En 2016, à Reims. En 2018, à Canterbury. Puis, après le Covid et le confinement, seulement en 2022 à Reims et à Canterbury en 2024, donc cette année. En 2016, Christiane Bresner, qui est élue présidente, mais décède en 2021, c'est alors que Robert Lessieux accepte de lui succéder. Les journées sont occupées par la visite de la cathédrale de Reims, bien sûr, d'une cave de champagne, l'accueil à la mairie par l'adjoint de l'époque, une soirée au champagne Montaudon et un lâcher de ballon. Car c'était justement au mois d'avril, le jour de l'anniversaire de la naissance du docteur Parkinson. Ensuite, les séjours à Reims, depuis le début, comportent toujours la visite d'une cave de champagne, car il y a toujours de nouveaux parkinsoniens de Canterbury qui ne sont jamais venus à Reims. Il y a toujours une visite de la cathédrale guidée ou libre, selon les années, et diverses visites. En 2005, la salle de reddition. la route du Champagne, en 2007 le chemin des Dames et la caverne du Dragon, la chapelle Fujita, la bibliothèque Carnegie, magnifique édifice Art Nouveau, en 2009 le phare de Verzenay et les Faux de Verzy, en 2011 la visite de Saint-Rémy, le spectacle Son et Lumière sur la cathédrale, en 2013 le musée de l'automobile, avec une démonstration de danse country avec le groupe de Favrol. En 2016, la cave aux coquillages à Fleury-la-Rivière et la vallée de la Marne, à Épernay, Dizy, Champillon et Auvillet. Visite de Sainte-Clotilde. En 2022, la cave aux coquillages. Et une montée dans le ballon à Épernay, à 150 mètres d'altitude, pour admirer la région d'Épernay.
Il y a beaucoup d'activités lorsque vous venez, vous en profitez pour faire beaucoup de visites quand même.
Combien de membres comptez-vous dans Reims-Parkinson? À peu près, enfin.
Actuellement, nous sommes 45 adhérents.
Et ça compte les familles aussi.
Alors,
donc ça
il
fait
y a
plus de...
des malades, bien sûr. Il y a les conjoints des malades qui sont en général les aidants. Il y a des personnes veufs et veuves, époux ou épouses d'anciens malades décédés actuellement, et puis quelques bénévoles qui n'ont pas de rapport direct avec la maladie de Parkinson.
Et les Britanniques que vous recevez, ils sont au nombre de combien à peu près? Le groupe de voyageurs, disons.
Souvent, ils venaient à entre 10 et 15 Britanniques.
Et il y avait autant de l'autre côté?
À peu près,
c'est équilibré.
Oui.
D'accord.
Oui.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je suis désolée. Mais est-ce que vous pouvez me dire si, en deux minutes, il y a eu quelques avancées?
Quelles sont les lueurs d'espoir?
Les lueurs d'espoir, voilà.
L'espoir réside, dans un premier temps déjà, dans le besoin d'adapter les médicaments actuels, donc moderniser un petit peu, au lieu de prendre un médicament d'une façon buccale. Maintenant, on se lance de plus en plus avec des injections cérébrales. Ça permet de lisser beaucoup plus l'action du médicament. Mais malgré tout, la recherche est surtout orientée, elle, sur les causes.
On n'a toujours pas trouvé.
Il y a des causes, oui. C'est certainement. Il y a des causes, comme en particulier chez les agriculteurs avec les produits...
Ça, c'est une conséquence
les produits
des...
d'épandage et tout ça, là, de pesticides et toutes ces choses-là.
D'accord.
D'ailleurs, chez eux, c'est reconnu comme étant une maladie
professionnelle.
Mais il y a aussi d'autres personnes. Nous avons participé à un colloque Parkinson à Château-Thierry. Et là, nous avons vu qu'il y avait un joueur de golf professionnel atteint de la maladie Parkinson et dont les causes sous-entendues seraient les produits répandus sur les terrains de golf.
C'est pas possible.
Donc il y a une destruction des neurones par des éléments extérieurs qui ne sont pas forcément des éléments héréditaires.
C'est peut-être des personnes très fragiles quand même.
Peut-être, monsieur.
La maladie de Parkinson est officiellement reconnue maladie professionnelle pour les agriculteurs, les viticulteurs, c'est-à-dire
toutes les personnes qui ont manipulé des produits toxiques.
Enfin.
On va s'accrocher à l'espoir, comme dit Verlaine, l'espoir, lui, comme un brin de paille dans l'étable.
Viviane, je suis désolée, je vais te couper la parole.
Mais non, j'ai fini, j'ai
dit. Parce qu'il nous reste juste le temps de remercier ces messieurs, de remercier Sylvie de les avoir accompagnés. Je te remercie une fois de plus de m'avoir supportée et de dire au revoir à nos auditeurs et à leur donner un prochain rendez-vous comme d'habitude. Au revoir tout le monde.
À bientôt.
Merci. Au revoir.
Merci. Merci de votre écoute.
Fréquence jumelage avec Monique Strom, Viviane Rebout à l'instant sur RCF Reims-Ardennes pour parler de l'association Reims-Parkinson. Dans quelques minutes, 18h, la suite des programmes sur RCF avec l'émission Où va la vie. Pour l'heure, la petite chanson du dimanche soir avec Bernard Poplineau, toujours dans la bonne humeur. C'est Écoutez Mubin.
Mubin, que je vous dis, oh, que je ne sais mis si vous êtes comme moi, mais Qu'est-ce que je suis banaise de vous revoir à coup. Puis j'aime bien Marneille à vous mounir, notre technicien du Charleville. Alors, à nuit, j'allons chanter une chanson, mais a cappella. A cappella, ça veut dire sans instrument. C'est la seule chanson que je connais et que je fais, avec plus de 300 que je connais. C'est la seule chanson que je chante la voix nue, rien d'autre, pont de guitare, rien. C'est une chanson qui vient du 19e siècle. C'est la chanson préférée d'un père, d'un grand-père. Il avait venu en France parce qu'il habitait en Belgique, il venait de Belgique, il est venu à l'âge de 10 ans pour travailler en France en 1858. Alors, voilà sa chanson préférée. Il chante ça, le grand-père. Allez, j'y allons.
Vinrai au soir, mi bon ami, mi papa n'y serait mi. Vinrai au soir, mi bon ami, mi papa n'y serait mi. Lui bon ami n'y aime, mi manquait, il a bedi dado, il a bedi dada. Lui bon ami n'y aime, mi manquait, le soir il est arrivé, soir il est arrivé. Mi bon ami déshabitu, et dame l'y couche-tu. Mi bon ami déshabitu, et dame l'y couche-tu. Il ne fumit plutôt couché, la bédidadou, il la bédidada. Il ne fumit plutôt couché, culbetio s'adormit, culbetio s'adormit. Quand on arrive à Vermanui, on attend au pont de bruit. Quand on arrive à Vermanui, on attend au pont de bruit. La nuit se passe pile jouvin, la bédidadou, il la bédidada. La nuit se passe pile jouvin, l'ubetio nu dirin, l'ubetio nu dirin. Quand t'arrives à lui petit jour, il dit mamie bonjour. Quand t'arrives à lui petit jour, il dit mamie bonjour. Je me fiche pas mal du bonjour, la bédidadou, il la bédidada. Je me fiche pas mal du bonjour, tu n'aimes ni mes amours, tu n'aimes ni mes amours. Car tu t'nous la caille d'alblé, il fallo la tirer. Car tu t'nous la caille d'alblé, il fallo la tirer. Catutno la fille d'Ali, la bédidadou, il la bédidada. Catutno la fille d'Ali, il fallo la brassie, il fallo la brassie, il fallo la brassie, il fallo la brassie.
Eh ben voilà, c'est une chanson osée pour l'époque. C'est osée, c'est au mi-convenable, mais à cette heure, personne ne dit rien. Alors à Tourtouze, à bientôt, je le vois encore, la semaine prochaine!
Auprès du Père, il vous appelle, c'est Dieu.
Pour sauver des hommes, pour sauver.